Bonjour, je suis Céline Hussonnois-Alaya. Samara est sortie du coma. Cette collégienne de 13 ans a été passée à tabac mardi devant son collège de Montpellier. Une enquête pour tentative de meurtre sur mineur a été ouverte et trois adolescents ont été placés en garde à vue, dont une collégienne qui aurait harcelé Samara pendant des mois. Il est 16h ce mardi au collège Arthur Rimbaud, un établissement scolaire de la Mausson-la-Paillade, un quartier situé dans le nord-ouest de Montpellier. Dans ce collège situé en réseau d'éducation prioritaire renforcé, qui accueille un peu plus de 800 élèves, c'est l'heure de la fin des cours. Samara, 13 ans, sort du collège. Elle vient de passer la grille quand, soudainement, une collégienne l'attrape, la tire à l'écart et la roue de cou. Deux autres jeunes se joignent au passage à tabac. Sa mère raconte ce jeudi matin sur BFM TV le cauchemar que sa fille a vécu, ses longues minutes de violence et la pluie de coups.
Elle me raconte ce que j'avais su, hein, c'est qu'il y a un groupe de jeunes qui l'attendaient à l'extérieur du collège et que voilà, ces trois personnes l'ont forcé à se rendre vers ce groupe pour qu'il la tabasse, quoi, tout simplement.
Mais pour quelle...
Elle m'a dit qu'elle était tétanisée, quoi.
L'adolescente est grièvement blessée et transportée à l'hôpital. Si ses jours ne sont pas en danger, elle souffre d'une hémorragie cérébrale et est placée dans un coma artificiel. Ce jeudi matin, la mère de Samara donne de ses nouvelles sur BFM TV. L'adolescente est sortie du coma et ne se souvient pas de tout, explique sa mère. Elle reste fragile, perdue.
Samara va mieux, elle s'est réveillée. Elle est toujours quand même un peu inquiète, elle est un peu déboussolée, elle a peur. Elle se retrouve un peu agitée. Le fait qu'elle ne sait pas ce qui va devenir, par niveau santé, elle est très, très affectée en tout cas.
Si la mère de l'adolescente est soulagée que sa fille soit en vie, elle se dit bouleversée et confie sa peur pour sa fille. Elle ne comprend pas ce déferlement de violence.
C'est vraiment, je suis écœurée en fait. J'ai peur pour ma fille maintenant, je veux plus que ma... j'ai l'impression qu'il faut la garder constamment près de moi, j'ai peur pour elle.
Que s'est-il passé ce mardi après-midi devant le collège Arthur Rimbaud ? Pourquoi ce groupe d'adolescents attendait-il la jeune fille ? La mère de Samara livre des détails sur les motifs de l'agression.
Ils en voulaient à Samara parce qu'une élève du collège qui a été interpellée hier est à l'origine d'un faux compte sur les réseaux sociaux. Elle a diffusé une image d'un des principaux agresseurs. Et il y a eu cet appel qui a été fait sur les réseaux. Pour venir s'en prendre à Samara, suite à ça. Cette élève a pris en grippe Samara. Elle a pris en grippe Samara, elle était constamment en train de la molester.
Car il s'agit bien de harcèlement scolaire. Une question de tenue vestimentaire, de teinture de cheveux, de coquetterie, mais aussi une forme de liberté qui aurait déplu à la collégienne impliquée dans l'agression, selon la mère de Samara.
Mais il y a quelque chose, mais moi je pense que c'est ça, C'était Samara, le fait qu'elle soit peut-être un peu plus libérée que certains élèves, je ne sais pas. En tout cas ma fille, elle a subi cet acharnement gratuitement.
Des violences physiques, verbales, des moqueries, des humiliations et des intimidations qui auraient commencé il y a plus d'un an et n'auraient pas cessé depuis.
Elle a tellement reçu de moqueries, d'insultes, on l'a traitée de mécréante que elle en est arrivée à se retenir les cheveux parce qu'elle en pouvait plus. Ma fille, elle était constamment molestée toute la journée. Ça, des rires, des crachats dans ses cheveux, c'était infernal pour elle.
Un lynchage, dénonce l'éditorialiste Laurent Neumann sur BFM TV.
Ce qui est arrivé à Samara, ça porte un nom, ça s'appelle un lynchage. Voilà. Et donc c'est puni par le code pénal de 20 ans de prison, de 20 ans de réclusion criminelle. C'est une tentative d'homicide volontaire. Donc les faits sont d'une gravité absolue. Après, il y a tout ce que cette affaire charrie. Et là, on a l'impression qu'on a une sorte de concentré.
C'est ça.
D'abord, l'ultra-violence de jeunes de 12, 13, 14 ans, c'est sidérant. L'effet de meute, renforcé par les réseaux sociaux, un an et demi que dure ce harcèlement, un an et demi.
Un appel au lynchage qui aurait été orchestré depuis les réseaux sociaux, affirme la mère de Samara mercredi sur BFM TV.
Il y a eu un appel sur les réseaux sociaux à ce que tous les collégiens des alentours se rendent au collège Arthur Rimbaud pour la frapper. Et elle savait que vendredi, il y avait un rendez-vous de tout un groupe de personnes qui devaient la passer à tabac. Elle m'a menti. Elle m'a dit « Maman, j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école. Ouais. » Je pensais que c'était juste pour ça. Mais en fait, non, c'était qu'il y avait cet appel sur les réseaux sociaux et ça s'est reprogrammé hier.
Soit mardi. Et un harcèlement sur fond de communautarisme alors que les deux jeunes filles, la victime et l'agresseuse présumée, sont toutes deux de confession musulmane. Pas vraiment une question de religion, mais de pudibonderie, déplore encore Laurent Neumann.
Ensuite, il y a la question de la religion. Et là aussi, il faut arrêter de se fermer, se voiler la face. Mécréant, ça veut dire quoi ? En arabe, on dit koufar, c'est l'infidèle, c'est celui qui ne croit pas à l'islam. À l'intérieur d'une même communauté, puisque ces deux jeunes filles sont visiblement de confession musulmane, c'est deux visions radicalement différentes de la religion, et on en arrive donc à un lynchage pour des affaires, Véronique le disait, de bigoterie, de pudibonderie, de religion.
Au-delà de la violence extrême de l'agression, la question qui se pose, c'est la réaction du collège. Que savait-il du harcèlement dont se disait victime Samara ? Et quelle a été la réaction de l'établissement scolaire ? La mère de Samara assure que le collège était au courant, mais elle reproche au personnel de l'établissement un manque de sévérité, car la collégienne qu'elle accuse d'avoir harcelé sa fille avait déjà été sanctionnée. Notamment pour des menaces sur les réseaux sociaux.
Il aurait fallu aller plus loin, oui, bien sûr, parce que elle n'avait pas compris la leçon. Elle a été exclue 2 jours, mais bon, 2 jours pour un appel au viol, c'était limite. Mais bon, j'ai mis ça sur le coup de son âge. Je me suis dit bon, c'est une gamine. Bon, elle va comprendre. On peut lui laisser une chance. Mais en fait, non. Il fallait sévir plus fort. En fait, elle a pas compris. Ma fille, elle a subi cet acharnement depuis l'année dernière. Elle a pas arrêter, c'est monter crescendo en fait.
L'autre élément qui rend la situation encore plus dramatique, c'est que le guet-apens aurait peut-être pu être évité. Car mardi, la mère de Samara est prévenue par le professeur principal de sa fille. Il sait qu'une expédition punitive visant l'adolescente est en préparation. La mère de la collégienne aurait alors appelé le collège, demandant au personnel de retenir sa fille en attendant son arrivée. En vain. La grand-mère de Samara ne cache pas sa colère.
Ils ont averti ma fille de dire qu'il y avait des garçons qui allaient attaquer ma fille, ma petite fille. Ma fille leur a demandé à 3 reprises, elle a eu 3 personnes de cet établissement, à ce que ma fille soit gardée à l'établissement jusqu'à qu'elle vienne. Non, ils n'ont pas attendu, ils l'ont jetée dehors. Ils l'ont jetée dehors. Et je ne trouve pas normal qu'il y ait tant de professeurs, d'enseignants et tout ça, et qu'il n'y ait personne qui ait rien vu, alors que tous les enfants ici sont au courant de tout. C'est incroyable. Et elle a vécu un acte de barbarie.
La mère de Samara a déposé plainte. La jeune fille, elle, est toujours hospitalisée et devait être entendue par les enquêteurs ce jeudi. 3 mineurs ont été placés en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineur. L'une d'entre eux, une adolescente de 14 ans scolarisée dans le même établissement que Samara, reconnaît avoir porté des coups. Bonjour Cécile Mamelin.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, vous avez été juge des enfants et juge aux affaires familiales. Vous êtes désormais présidente de chambre à la cour d'appel de Douai et vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Après l'agression de Samara mardi devant son collège à Montpellier, 3 mineurs ont été placés en garde à vue. Concrètement, comment ça se passe quand des mineurs sont placés en garde à vue ? Est-ce que ça se passe dans un commissariat de manière assez classique, si je puis dire ? Ou est-ce que leur garde à vue se tient dans une unité spécialisée pour mineurs ?
Alors, ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est que il y a effectivement une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne pénale spécialisée de bout en bout, hein, du début effectivement jusqu'à la fin de la procédure, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, c'est effectivement devant une brigade des mineurs que les mineurs sont entendus. Au niveau de la justice, ce sera ensuite pareil, le substitut des mineurs au niveau du parquet, et puis le juge des enfants lorsque le mineur est présenté devant un juge, ce qu'on appelle un juge du siège. Donc effectivement, c'est une chaîne pénale spécialisée qui démarre dès le stade de l'enquête.
Et leur garde à vue, ça se passe au commissariat?
Voilà, exactement, ça se passe au commissariat. Mais bien évidemment, ce sont les forces de l'ordre sont des forces de l'ordre spécialisées dans l'audition des mineurs.
Et est-ce que leurs conditions de garde à vue sont différentes d'un majeur ?
Oui, bien sûr, dans la mesure où ils sont mineurs, ils sont considérés comme personnes. Voilà, on doit prévenir les personnes qui sont titulaires de l'autorité parentale, hein, qui assistent avec le mineur aux auditions. Les conditions également sont prévues pour laisser des temps de repos, etc. On traite toujours différemment un mineur d'un majeur.
Vous parliez de la présence des représentants de l'autorité parentale. Est-ce qu'ils peuvent voir leurs parents ? Et est-ce que la présence des parents est obligatoire dans ce genre de situation ?
Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, les policiers doivent avertir le plus rapidement possible les parents. Et ils ne peuvent commencer l'interrogatoire en l'absence des parents que 2 heures après les avoir avertis. Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l'interrogatoire si les enquêteurs l'acceptent. Et les parents peuvent également demander un examen médical pour leur enfant. Et évidemment, l'avocat est obligatoire en toutes circonstances lors d'une garde à vue d'un mineur.
Une enquête pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte. Clairement, qu'est-ce qu'il risque ? Quelle est la peine encourue pour un mineur ? Je veux dire, si un mineur est condamné pour tentative de meurtre sur mineur, est-ce qu'il va en prison ?
Alors, il y a 2 phases. Il y a la phase provisoire, on va dire, lorsque le mineur n'est pas encore jugé, mais simplement lorsqu'on a statué uniquement sur sa culpabilité et qu'on attend ensuite le jugement. Vous savez qu'en France, il y a un code de justice pénale des mineurs, donc il y a une procédure pénale spécifique. Les peines sont également des peines spécifiques. Et bien sûr, un mineur peut aller en prison, plus les faits sont graves et plus il est âgé, plus bien sûr les conditions de la détention provisoire, c'est un fait qu'il aille en prison, sont permises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, il y a dans le cadre justement après sa mise en examen, il y a des mesures spécifiques qui sont prises à l'égard des mineurs. Soit il reste dans sa famille avec un contrôle judiciaire, soit il est incarcéré si les faits sont graves et s'il a au moins 13 ans, puisqu'en dessous de 13 ans, la détention provisoire n'est pas possible pour des délits, elle l'est pour des crimes dans des cas tout à fait bien sûr exceptionnels, mais ça peut arriver. Et entre 13 et 16 ans, c'est également possible. Et bien évidemment, au-delà de 16 ans. Il y a des durées spécifiques, ce ne sont pas les mêmes durées que pour les majeurs. Et une fois que la phase, j'allais vous dire, d'enquête et après la mise en examen sont terminées et que c'est la phase du jugement, là aussi, les peines qui sont applicables aux mineurs ne sont pas les mêmes que celles des majeurs. Il faut bien comprendre qu'elles sont divisées, le maximum encouru est divisé par 2. Et il y a ce qu'on appelle également l'excuse de minorité qui peut être écartée dans des cas exceptionnels, mais qui, l'excuse de minorité, c'est la division des peines par 2.
Alors, vous en parliez à l'instant, les différences entre les peines entre une personne condamnée, un majeur ou un mineur. Et durant le procès, est-ce qu'il y a des choses qui changent entre un procès pour un mineur ou un majeur ? Est-ce que la procédure est différente ?
Bien sûr, la procédure est également tout à fait différente. Il passe soit devant le juge des enfants, mais là, ce sera forcément, pour les faits les plus graves et criminels, notamment, c'est le tribunal pour enfants, voire la cour d'assises des mineurs, hein, pour les plus de 16 ans. Et la spécificité du tribunal pour enfants et de la cour d'assises des mineurs, c'est qu'ils ne sont pas composés comme un tribunal ou comme une cour d'assises pour les majeurs. Devant le tribunal, il y a des assesseurs qui sont des gens qui s'intéressent particulièrement aux questions de l'enfance, qui assistent le juge pour enfants. Et devant la cour d'assises des mineurs, il y a le président d'assises, il y a les jurés et il y a 2 juges des enfants, forcément dans la composition également de la cour d'assises. Donc vous voyez que du début jusqu'à la fin, la procédure est effectivement spécifique parce qu'on juge des mineurs.
Pour revenir sur les faits, l'agression de Samara a été d'une extrême violence. L'adolescente souffre aujourd'hui d'une hémorragie cérébrale. Elle a dû être plongée dans le coma. Vous qui avez été juge des enfants, qu'est-ce qui peut expliquer, non pas excuser, mais expliquer une telle violence chez des adolescents aussi jeunes ? Je rappelle que les 3 mineurs placés en garde à vue sont âgés entre 14 et 15 ans.
Alors c'est très difficile d'expliquer les passages à l'acte violents des mineurs parce que même les chiffres dont nous disposons sont quand même parfois assez flou. Ce que je peux vous dire, c'est que de la dernière récente commission sénatoriale qui a eu lieu sur ce sujet en septembre 2022, ce qu'on vient dire, c'est que le nombre de crimes, finalement, hein, le nombre de crimes commis par les mineurs reste relativement stable. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a probablement moins d'atteintes sur les biens, ce qu'on appelle voilà, voler des voitures, et plus d'agressions sur les personnes. C'est un phénomène très difficile à expliquer parce qu'il est très souvent mis sur le devant de la scène, alors même qu'on ne le ferait pas forcément pour des majeurs. Et je ne pense pas qu'on puisse véritablement dire que la violence soit plus forte chez les mineurs que chez les majeurs. Simplement, elle est plus choquante parce qu'elle est commise par des ados, hein, voilà, des jeunes adolescents, dont on ne peut pas soupçonner qu'ils aient à ce point en eux cette envie de frapper l'autre, cette envie d'agresser la personne. C'est toujours quelque chose qui est difficile à comprendre. Je ne pense pas, pour ma part, que ce soit véritablement une question d'âge. On a subi peut-être des carences, on a peut-être eu accès à des phénomènes, enfin je veux dire à des formats violents. On ne peut pas expliquer ça par une chose. C'est un ensemble d'explications que même les spécialistes, en réalité, ont du mal à véritablement théoriser.
On va revenir sur le contexte de l'agression. Selon la mère de Samara, la collégienne était victime de harcèlement depuis plus d'un an. On sait aussi que sa mère a été contactée par le professeur principal de Samara pour la prévenir que des jeunes attendraient sa fille à la sortie. Et malgré la demande de la mère, l'établissement aurait laissé sortir Samara seule à 16h. Est-ce que l'établissement scolaire peut être mis en cause dans cette affaire ?
Je pense que très peu d'entre les parents vont chercher leur enfant au collège à 14 ans. Là, il y avait une menace particulière. Si le collège était au courant, mais qu'ils n'ont vu personne à l'extérieur, je ne suis pas persuadée qu'on puisse rechercher une responsabilité à cet égard.
La mère de Samara a déposé plainte. On le disait, une enquête pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte. Quelle va être la suite juridique de cette affaire ? Quelles vont être les prochaines étapes ?
Alors, la prochaine étape, c'est à la fin de la garde à vue, la façon dont le procureur de la République va orienter le dossier. Il y aura probablement un juge d'instruction des mineurs qui sera saisi, là aussi. Le juge d'instruction est un juge d'instruction spécialisé dans les affaires de mineurs. Le procureur va probablement demander des mesures soit de contrôle judiciaire, soit de placement en détention provisoire, en fonction de, je le disais encore, de l'âge, de la gravité des faits et de la peine encourue. Et ensuite, il y aura des investigations justement menées sur la personnalité, sur le déroulement des faits, sur la chronologie. Ça prendra certainement un certain temps. Les juges d'instruction ont énormément de dossiers dans leur cabinet. Ce sont des juges particulièrement chargés. Donc, c'est vrai que parfois, on peut regretter que les instructions soient longues, mais c'est la réalité des conditions de travail des magistrats en France. Et donc, le mineur, de toute façon, sera nécessairement suivi. Des mesures seront prises à la fois pour aider la famille et pour éventuellement protéger, j'allais vous dire, la société d'un éventuel nouveau passage à l'acte. À la fin de l'instruction, il est renvoyé devant soit le tribunal pour enfants, soit la cour d'assises des mineurs pour le jugement.
Merci Cécile Mamelin d'avoir répondu à mes questions. Pour le titre à la une.
Merci à vous.
Merci à Marie-Aimée pour la réalisation de ce podcast et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.
Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à la qualité de nos eaux en bouteille. Perrier, Contrex, Vittel, ces eaux Nestlé sont potentiellement contaminées. Leur qualité sanitaire n'est pas garantie. On l'apprend dans une note confidentielle de l'ANSES dévoilée par France Info et Le Monde. Alors comment l'eau en bouteille Nestlé a-t-elle été contaminée ? J'ai posé la question à François Pitrel, journaliste environnement et climat à BFM TV. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.